France Culture.
Bonjour Book Club, bonjour Yannick Lins. J'ai lu avec beaucoup d'émotion votre livre Passagère de nuit et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est Résistance. J'ai trouvé que vous faisiez deux magnifiques portraits de femmes, Elisabeth Dubreuil et Regina, et que bien que leur destin soit extrêmement difficile, puisqu'on parle d'esclaves féminines, eh bien le livre restait plein d'espoir.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Rassembler ses naissances, tout traverser, tout prendre et inventer ses aïeuls sur le sentier des songes. Ni plus, ni moins, aujourd'hui, dans votre book club. Pour son dernier livre, la romancière Yannick Lahens enchâsse trois vies de femmes, naviguant entre Port-au-Prince, la Nouvelle-Orléans et les cales puantes des bateaux négriers. Les maîtres et les hommes ont peur de la joie. Et dans le peu que partagent les vaincus, cette joie, cette lumière, mais aussi les secrets et les masques sur lesquels appuyer son propre silence, son d'inestimable trésor. Yannick Lahens publie Passagère de nuit en cette rentrée littéraire et elle est l'invitée de votre book club. En fin d'émission, nous jouons, vous savez, au grand jeu des pages musicales à chercher de la musique dans les livres et sachez qu'il y en a toujours dans ceux de la romancière haïtienne. Nous sommes ensemble pour une heure. On est ravis. Bienvenue à toutes et à tous dans le book club. Bonjour Yannick Lahens.
Bonjour.
Passagère de nuit apparu aux très chères éditions Sabine Vespizère. Il figure dans la première liste du prix Goncourt 2025. Vous êtes actuellement en grande tournée des librairies, des festivals en France et en Belgique où vous allez aller dans quelques jours. On est ravis de vous recevoir à ce micro. Soyez la bienvenue dans le Book Club.
Merci pour l'invitation.
Ici, tout commence toujours par l'évocation de nos invités en tant que lectrice et lecteur pour faire votre portrait dans votre rapport au livre. Il y a mille façons de parler de vous en tant que lectrice, Yannick Lahens. Mais pourquoi pas s'appuyer sur le nouveau roman paru où il est question de la lecture à plusieurs reprises dans différentes voix de femmes, mais celle de Regina qui dit notamment que si elle connaît le bonheur, c'est peut-être qu'elle l'a appris dans les livres, qu'il y a quelque chose du bonheur qu'elle aurait appris dans les livres. Vous, vous diriez que vous avez appris quoi de la vie, mais vraiment de la vie, dans votre parcours de lectrice ?
D'ailleurs, Regina dit « Ma petite fille et ma fille connaissent peut-être le bonheur. Moi, je ne sais pas ce que c'est parce qu'elles l'auront appris dans les livres. » Cela ne veut pas dire qu'elles ne connaissent pas la joie,
non,
qui est autre chose. Ce que je voulais vraiment un peu pointer du doigt et mettre l'accent sur le fait qu'il y a un bonheur qu'on nous apprend et qu'on ne peut obtenir que par l'accumulation de biens matériels ou d'une certaine forme de visibilité. Et en revanche, ce que elle a toujours porté toute sa vie, Regina, c'est une joie savante qui s'appuie sur un savoir ancestral, qui s'appuie sur sa culture, sur ses liens avec sa communauté, ses liens avec les esprits qu'elle voit et qui l'accompagnent toute sa vie. Elle voulait justement faire le partage entre ces deux.
Et vous diriez que vous vous êtes promenée dans les livres en récoltant quoi ?
Eh bien, moi, je suis entre deux eaux, en porte-à-faux. Donc, forcément, les livres m'ont apporté beaucoup de bonheur. Je dis tous les jours que la littérature me sauve en Haïti. Et la littérature m'a permis de faire des voyages immobiles dans le temps, dans l'espace, de changer d'identité. Les livres m'ont beaucoup apporté. Mais je dois dire qu'à mon retour, après mon séjour en France pour mes études, j'ai appris autre chose, petit à petit. Dans la culture, je pourrais dire majoritaire d'Haïti, qu'on peut avoir cette joie qui est la joie construite autour des liens, de la communauté et du partage.
Et vous en faites du coup, à vous entendre d'emblée, quelque chose qui serait deux mondes assez distincts et entre lesquels vous navigueriez ?
En fait, je fais le lien tout à fait naturellement, puisque je suis entre ces deux eaux, entre ces deux mondes. Et je pense que je n'ai pas envie non plus de me défaire d'un de ces mondes. Justement, je pense que l'avenir du monde demande que nous nous décentrons, que nous ne soyons pas fermés sur un seul univers. Plus on apprend sur d'autres cultures, d'autres univers, plus on s'enrichit. Et plus on s'ouvre et plus on se dit que la condition humaine se décline de différentes façons et que ça demeure la condition humaine.
D'ailleurs, souvent, vous racontez que pendant ce séjour français, ce séjour parisien, ce séjour même du quartier latin, puisque vous faites vos classes universitaires à l'université de la Sorbonne, vous découvrez l'absence de votre propre histoire, l'absence d'Haïti, l'absence de la littérature haïtienne, mais aussi de l'histoire de cette terre-là, qui est pour une part l'histoire française.
Tout à fait.
Et l'absence d'une partie de l'histoire de la culture haïtienne. Est-ce que finalement, au moment où s'intensifie votre rapport au livre, le gouffre de silence qu'il y a en parallèle dans cette découverte crée une sorte de choc ou d'étincelle ?
Choc et d'étincelle que je perpétue d'ailleurs dans le projet même de Passagère de nuit. Parce que Passagère de nuit, ce sont des mots que je vais chercher dans les silences. Et je me rends compte que la littérature puise beaucoup dans les silences, quelquefois. Par exemple, le silence sur ma propre biographie, puisque quand j'apprends que j'avais une arrière-arrière-grand-mère qui était arrivée de la Nouvelle-Orléans, pour moi, ça a été une surprise énorme. Il y a peut-être 10 ans ou 15 ans que je l'ai appris. Ensuite, que mon arrière-grand-mère, que j'ai connue jusqu'à l'âge de 10 ans, eh bien, on ne m'a pas dit grand-chose d'elle. Il y avait des tas de non-dits et de silences dans la famille. Je me suis dit, je vais les réinventer. Et j'ai fait une œuvre d'imagination à partir de quelques éléments que j'avais, éparses. Silence aussi sur l'histoire, parce que la Nouvelle-Orléans, je me mets à découvrir la Nouvelle-Orléans, ce que c'était. Imaginez que la Nouvelle-Orléans, c'est une Caraïbe créole à l'intérieur des États-Unis. Une rencontre d'aventuriers français, d'affranchis revenus de Saint-Domingue, parce que la culture va être extrêmement imprégnée de la culture qui arrive de Saint-Domingue, des colons comme des affranchis, comme des esclaves, les Indiens qui quittent les premières réserves et qui viennent de ce côté-là aussi, les Acadiens, les Canadiens qui fuient l'arrivée des Anglais dans le Nord, qui viennent aussi à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est une terre bouillonnante, une terre d'échange. Et qui reste d'ailleurs et demeure quelque chose de très particulier au sein même des États-Unis aujourd'hui. Ça va un petit peu changer quand Napoléon va vendre la Nouvelle-Orléans aux États-Unis et que la culture puritaine, les Américains du Nord vont descendre. Mais elle demeure, et jusqu'à présent, la Nouvelle-Orléans demeure un carrefour, un creuset extrêmement intéressant à l'intérieur même des États-Unis.
Mais quand vous dites que souvent la littérature arrive des silences, donc on va y venir à ce roman-là, Passagère de nuit, Yannick Lins, qui naît peut-être de tous ces silences-là, mais est-ce que la lecture arrive aussi face à des silences ? Est-ce que, découvrant l'absence totale de transmission de l'histoire haïtienne quand vous êtes étudiante à Paris, est-ce que vous vous mettez à lire dans un certain sens ? Est-ce que vous avez un appétit de savoir qui passe par la lecture ou ça passe par autre chose ?
Ah, qui passe par la lecture, forcément, qui passe par les débats avec les étudiants haïtien, non haïtien, et qui passe par la lecture. À ce moment-là, je me dis, il faut que je découvre pourquoi. Et j'ai senti une sorte de familiarité avec tous ceux dont on ne parlait pas. Quand la lecture, par exemple, de La sorcière de Michelet me dit, là je me situe. Je suis parmi ceux
qui... Oui, vous dites souvent que c'est un choc pour vous, ce texte-là.
Ah, je l'ai beaucoup.
Texte du milieu du 19e, qu'un grand professeur vous transmet. Qu'est-ce qui, dans ce texte, La sorcière de Michelet, je crois que c'est 1862, vous attrape et vous
fait communauté ? Parce qu'il met en scène, justement, les silences de l'histoire de France. Cette sorcière du Moyen-Âge qui traverse tout le Moyen-Âge, dont le savoir est occulté, et montre aussi toutes les populations qu'on a voulu tuer pour qu'on arrive à une certaine pureté, mais que cette pureté, on ne l'atteint jamais, de toute façon. Alors, je me suis sentie du côté de ceux qu'on exclut. Et j'ai senti que c'était une belle, comment je pourrais dire, mise à l'honneur, mise en lumière de ceux qu'on exclut. Voilà. Et de ceux qu'on envoyait au bûcher. C'était l'Inquisition aussi. On brûlait des livres, on brûlait des gens. Et j'ai trouvé que ce texte mettait en lumière et rendait hommage à tout ça.
Et pourtant, vous n'étiez ni une femme du 19e, ni... sauf preuve du contraire, une sorcière, Yannick Lins. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la lecture qui nous permet de nous relier avec des êtres et des conditions éloignées par le temps, par
la
vie. Tout
à fait. Quand j'ai parlé de voyage immobile, on peut se sentir concerné par, je ne sais pas moi, Antigone. On peut se sentir concerné par des légendes, je ne sais pas, des livres de la bibliothèque de Tombouctou. On peut être concerné par un texte de Racine. Oui, parce que là, c'est la littérature, c'est ce qui permet justement de montrer que la condition humaine dans la beauté existe, qu'elle se décline de différentes façons. Et je crois que les plus beaux voyages que j'ai faits, imaginaires, c'est à travers la littérature.
Oui. Aujourd'hui, quelle place occupe la lecture dans votre vie quotidienne ?
Ah, beaucoup. Parce que d'abord, les choses sont devenues beaucoup plus difficiles en Haïti. Et chaque lecture, je relis des livres aussi. Et chaque lecture me permet justement d'approfondir cette chose, cette aventure, ce voyage qu'est la vie.
Oui. C'est-à-dire, vous avez l'impression que dans un moment où les choses se tendent tout particulièrement en Haïti où vous vivez, il y a une clarence, il y a une ressource, mais une ressource de quel ordre ?
Ça permet de... D'abord, la joie. Je pense que c'est important, tous les jours, d'avoir des moments où on fait une grande place à la joie, autrement on ne tient pas. Et ensuite, une certaine forme de savoir, pas forcément intellectuel, mais un savoir émotionnel qui permet de tenir. On se dit qu'il y a des êtres humains qui ont leur fragilité. Je me souviens d'avoir lu le Camille de Toledo, Marianne Avant l'aube. J'ai beaucoup aimé. Des textes comme ça me parlent et me permettent d'avancer tous les jours avec des moments de joie, des parenthèses qui sont très importantes.
Ouais. Est-ce que pour vous, il y a dans l'acte de lecture, quel que soit ce que vous lisez, quelque chose qui se rapporte à la jubilation ?
Oui, parce que je crois qu'il faut qu'il y ait dans la lecture ce que Barthes appelait la saveur. Pas seulement le savoir, on découvre toutes sortes de savoirs, mais la saveur, le goût.
Ça tient à quoi ?
Ça tient à l'émotion, quelque chose qui vous rend, qui vous touche intérieurement, qui vous rappelle peut-être vos propres expériences, qui vous ramène à vos propres attentes et qui vous projette dans l'autre. Et on se rend compte dans cette intimité, parce que c'est un acte quand même d'intimité. On est en conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a peut-être pas vécu dans le même siècle que nous, quelqu'un qui n'est pas du même genre que nous... Et on arrive à ça. Et je crois que c'est chaque jour, chaque lecture nous met en situation d'être dans l'universalité.
Voilà. On va parler de votre roman, Yannick Lahens, juste après cette chanson de la chanteuse d'origine haïtienne Toto Bissainte, ici accompagnée par Marie-Claude Benoît et Marianne Mathéus. C'est un chant très pur, très dénudé, vraiment très centré sur leur voix, très calme aussi, bien que parfois désespérée. Elles y invoquent Papa Dambala, un esprit de la bonté, du culte vaudou. Elles répètent comme ça son nom, le psalmodie. Et au fil des appels, leurs voix vont de la douceur à la violence, de la supplique au défi, de la mélancolie à l'espoir.
Soleil fin couché, garde na travail. Mais tout monde. C'est même maître là qui crée. Mais pour qui ça nous pas cap gain liberté? Oh,
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On ne naît pas qu'une seule fois. C'est peut-être cela le secret des femmes au cœur de votre nouveau roman, Yannick Lahens, entre Haïti, la Nouvelle-Orléans, l'incessante violence masculine, notamment sexuelle, et les cales sombres des bateaux négriers. C'est peut-être leur secret pour porter des vies lourdes de combats sans trêve. Ces femmes vaillantes ont avec elles-mêmes des conversations infinies, et elles se parlent aussi, et elles parlent aux plus jeunes. Leur langage fourmille d'images puissantes comme celle du malheur courant derrière elles, incendies, cyclones, viols, esclavage, mais sur lequel on ne se retourne jamais. Voilà un autre des secrets de ces femmes potomitans dont vous racontez Inventer la vie, Yannick Lahens, le mouvement et son corollaire, le désir. Passagère de nuit, apparu en cette rentrée aux éditions Sabine Vespizer, et on continue d'en parler avec vous. Avec ce premier extrait, c'est Elisabeth qui parle.
La chaleur alourdissait l'air malgré la pluie. Le haut de ma robe collait à ma peau. J'ai bien cru que j'allais perdre le souffle. Aveugle, je fendais la nuit et j'entendais plus distinctement que d'habitude les cris des oiseaux en quête de partenaires trouer le silence, les craquements des insectes et oisillons dans les fourrés où les prédateurs poursuivaient leur proie. Je ne m'arrêtais pas. J'avançais. J'ai toujours aimé l'idée d'avancer contre ce qui faisait obstacle. J'ai toujours misé sur mes jambes. Des hommes et des femmes des peuples de mon aïeul, Florette Dubreuil, avaient allumé un à un les villages, les villes, les forêts et les habitations, debout sur leurs jambes. Ils avaient brûlé des choses qui étaient précieuses aux yeux des femmes et des hommes de mon aïeul, Prosper Verdun du Buisson. Des choses que ces femmes et ces hommes avaient accumulées avec leur droit de fouetter, torturer, écarteler ceux et celles qui un jour ont incendié les abords de cet enfer. Ce soir, je suis dans la témérité aveugle de ceux et celles qui ont brûlé, et j'appelle à l'aide ces inconnus qui habitent mes pas.
Se tenir dans la témérité aveugle de ceux et celles qui ont brûlé et appelé à l'aide ces inconnus qui habitent mes pas. Je reprends la fin de ce paragraphe qui vient d'être lu, extrait de votre livre Passagère de nuit, Yannick Lahens, pour vous demander si c'est presque une description de l'état d'écriture. Appeler ces inconnus qui ont brûlé et qui habitent peut-être vos pas ou les pas de ceux qui marchent au présent.
Pour ce livre, certainement, parce que je l'ai écrit dans des conditions tellement difficiles qu'à plusieurs moments, j'ai cru que je devais abandonner le projet. Mais en même temps, je me disais, surtout ne m'abandonnez pas. J'invoquais Regina et Elisabeth. Je dis, surtout, je dois marcher sur vos pas. Tenez-moi la main, parce qu'il faut que j'aille au bout. Donc oui, elles m'ont tenue dans ma tête. Et je me suis dit, je vais appuyer sur elles. Elles ont été mes deux jambes pour avancer, précisément. Mais ça renvoie aussi à ce que certainement je voyais aussi autour de moi, c'était le courage des femmes. Elisabeth comme Regina me rappellent les femmes que je vois autour de moi tous les jours en Haïti, les femmes de milieu populaire qui sont dans la rue, qui permettent à l'édifice de tenir. C'est elles qui permettent aux gens, toute la population des villes de manger, d'acheter des vêtements, d'acheter des médicaments. Elles tiennent tout le commerce informel de cette ville qui est le commerce majoritaire. Et aujourd'hui, on a le corps des femmes, puisqu'on est en situation d'insécurité. Souvent, le corps des femmes, c'est un territoire de guerre aussi. Elles connaissent le viol. Mais elles continuent de pouvoir donner à manger. Si on veut acheter des légumes, ce sont les femmes. De la viande, enfin, ce sont les femmes. Si on veut continuer à acheter des vêtements, enfin, dans la toutes les couches populaires, ce sont les femmes. Donc elles continuent.
Mais c'est de la témérité de ces femmes observées au présent, Yannick Lahens, que naît le désir de convoquer ces femmes, les passagères de nuit des siècles passés.
Il y a eu un double mouvement, parce qu'il s'agissait pour moi aussi de convoquer les femmes de ma propre histoire personnelle, de les réinventer, puisque c'était des récits très lacunaires, que j'avais avec beaucoup de trous, pardon, et de silence. Donc je les ai réinventées. À partir de la Nouvelle-Orléans et du 19e siècle haïtien, Et en les réinventant, je voyais comment était née cette force des femmes d'aujourd'hui. Et je me disais que c'est une manière de dire nous avançons, l'espoir n'est pas la seule réponse, soyons ancrés dans le présent. Ce sont les victoires répétées ancrées dans le présent qui forment l'avenir.
Mais il y a aussi quelque chose de très fort qui traverse vraiment tout votre roman, c'est que dans nos corps, il y a d'autres corps. Et vraiment, cette phrase, je la redis, hein, mais cette femme qui a toujours fait confiance à ses pas, elle a en elle celles et ceux qui ont brûlé. Elle appelle à l'aide des inconnus qui habitent ses pas. Et c'est pas la seule. C'est-à-dire que tous les personnages, oui, mais que ce soit des bons corps en nous ou des mauvais corps, c'est-à-dire que, y compris ceux qui gouvernent, ont en eux les corps qui ont exploité, qui ont brûlé, qui ont violé. Il y a vraiment quelque chose de corps pluriel dans ce roman.
Oui. Et d'ailleurs, la science aujourd'hui nous dit que l'épigénétique.
C'est vrai.
Voilà. Il y a la transmission. Et je crois aussi que dans les cultures, enfin, la culture populaire haïtienne, le corps est un corps réceptacle. Puisque quand on est en relation avec une divinité, la divinité vient vous habiter, vous êtes chevauché par cette divinité. Donc le corps est porteur d'autre chose que le simple corps physique que nous voyons. Donc en ce sens, il y a cette force-là qui fait qu'on peut avancer. Et c'est un corps aussi qui n'est pas coupé des éléments, contrairement au... Enfin, à la modernité aseptisée, il n'y a pas de coupure entre l'homme et le vivant tout autour. Les arbres sont habités. Quand on voit un cours d'eau, il est habité. L'air peut transporter aussi des messages. Donc, on est en relation constante. Donc, ce corps est vers l'extérieur et en même temps, il est réceptacle.
Oui, d'ailleurs, vous écrivez, je reprenais cette expression d'avoir des conversations, ces femmes, en effet, parce qu'elles sont nombreuses dans votre livre, ont d'infinies conversations avec les autres, avec leurs semblables, femmes, mais aussi avec les générations suivantes, mais avec elles-mêmes. Et c'est une conversation très foisonnante. Il y a vraiment quelque chose de très multiple. Et peut-être que c'est l'une des clés de leur combat contre l'adversité, c'est qu'elles ne sont pas dans une solitude sèche. Il y a quelque chose de très très habité.
Absolument. Et il y a toujours cette solidarité, en fait, cette communauté qui leur donne...
En elle et autour.
Absolument. En elle, parce que quand dans le mouchoir ciel, par exemple... Qui est un...
Peut-être vous pouvez donner cet exemple du mouchoir ciel.
Alors, les femmes haïtiennes, enfin, dans le milieu populaire, elles ont toujours ce mouchoir noué autour de la tête. Et ce mouchoir, quand, par exemple, il y a un événement difficile, on dira toujours, noue ton mouchoir très serré. Parce que comme quoi, ça va te donner beaucoup plus de force. Et j'ai pris donc cette image pour que le mouchoir devienne pour Regina un mouchoir ciel où elle met ses astres, ses étoiles, ses divinités. Et elle transporte avec elle son propre ciel.
Mais c'est tellement
vaste. Qui lui permet de, voilà, de tenir. Oui. Et j'ai porté cette image, je me suis dit, oula, finalement ce mouchoir sur la tête des femmes, c'est peut-être là que réside toute leur force. Leur spiritualité aussi, qui leur permet de faire face à l'adversité.
Et on verra qu'il y a, en effet, une multitude de façons de faire face aux multiples adversités dans ces passages-là.
Dans le silence.
Le silence. Alors peut-être on peut y venir immédiatement. Vous avez parlé tout à l'heure d'une littérature et d'une lecture qui viendrait du silence, mais il y a dans les passagères de nuit beaucoup de qualités de silence. Et ces silences, souvent, sont des silences là aussi très habités, pas toujours si simples à lire. Il y a des silences ambivalents, dont l'ambivalence est la force de résistance. C'est comme si vous faisiez une sorte d'archéologie de différents silences, Yannick Lahens. Comment avez-vous appris cela avant qu'on parle des voix?
Alors, je dois dire que dans la culture populaire, le silence est très important. Je pense que quelque chose qui est resté d'une sorte de stratégie de survie face à l'adversité. Dans la mesure où, au moment de la colonisation, dans l'esclavage, l'esclave sait que sa voix ne compte pas. C'est un meuble, le code noir fait de lui un meuble. Donc l'esclave, homme ou femme, sait que le silence, c'est sa force. Dont, par exemple, le cas d'Elisabeth et de ce colon qui va la violer, ben dont elle portera l'enfant.
Elisabeth, qui est la première narratrice de la première partie.
Elle sait aussi que le silence, dans son silence, réside une force, puisque celui qui domine, et c'est pas utile pour lui, il n'a pas besoin de connaître les codes culturels de ce, la personne dominée, mais la personne dominée doit connaître les codes culturels de celui qui domine, rien que pour survivre. Donc elle se dit, j'ai cette longueur d'avance sur lui. Il ne le sait pas, mais c'est déjà, dans mon silence, j'ai déjà une victoire. Et quand aussi on est en situation de dominer, le silence devient une stratégie, devient une arme. Et on ne dira pas sa façon de penser, on porte un masque. Sa mère lui dit, ne dis jamais non, tu dis toujours oui, même si tu penses non. Parce que quand tu dis non, tu dois donner des explications et te justifier, tu dis oui.
Et c'est un oui qui ne vaut pas pour un vrai oui, évidemment. Elle lui dit aussi, tu es un mur blanc et sur ce mur blanc ne se projettera que la connaissance, presque sous-titrée idiote, de la personne qui te domine. Mais c'est tout et ça n'ira pas plus loin. Et toi, tu as toute la profondeur de ce silence-là qui devient insondable. Mais ça, par exemple, on peut dire, bon, c'est une connaissance historique, Yannick Lahens. Vous lisez, on pense par exemple à un récent roman traduit en français de Percival Évrette qui travaille la question de la résistance des esclaves par le silence, par le double langage, par l'ironie. Mais ensuite, il faut trouver la voix romanesque pour l'incarner. Et on est attrapé dès le début du roman par la voix d'Elisabeth. Elle nous parle et vous en faites quelque chose de très présent, de très contemporain. Or, c'est une femme du 19e. Enfin, on est très loin, prétendument. Comment vous la trouvez, cette voix-là, dans l'écriture ?
Dès l'incipit, je me suis dit, il faut que, dès les premiers mots, je trouve la dynamique du récit. Je trouve le flow du récit. Elle va naître trois fois, donc je commence par ces trois naissances. Mmh. Et je pense que moi-même, j'ai approfondi ce silence-là en écrivant les textes. Et souvent, moi, je discute avec des amis, soit qui sont anthropologues, sociologues, sur... l'histoire d'Haïti. Et j'apprends beaucoup avec eux. Par exemple, il y a en exergue une phrase de Jean Casimir qui a beaucoup étudié. Et il parle de sa grand-mère. Alors je lui dis un jour, mais tu sais Jean, je suis en train d'écrire un roman sur mes grands-mères. Il me dit, ah bon ? Moi je suis en train de travailler aussi sur la grand-mère. J'ai dit, ah bon ? Et qu'est-ce que tu en tires ? Il me dit, je vais t'envoyer une phrase et tu pourras comprendre. Et là, ça a été pour moi un déclic de comprendre.
Mais c'est une chose de comprendre,
et de
c'est autre chose de pouvoir écrire une voix, alors qu'on a peut-être en vous, vous le disiez, on est plein des voix anciennes et des voix multiples, mais de trouver la grammaire, de trouver la langue pour que d'un seul coup, cette Elisabeth, cette Florette, prenne la parole.
Je crois que c'est venu dans l'apprentissage même de cette écriture du roman, parce que je me dis comment je vais rendre ces silences. Souvent, j'ai beaucoup regardé une femme d'ailleurs qui venait travailler à la maison et son silence. J'ai beaucoup étudié le silence de cette femme et derrière ce silence, j'ai appris. Il y a tout un savoir, il y a toute une manière d'être et que j'ai tenté de restituer par l'écriture, par la forme. Parce qu'un projet de romance, c'est pas seulement raconter une histoire. Il faut donner la saveur de ce silence, dont on parlait tout à l'heure avec la littérature, c'est donner la saveur de ce silence. Parce que c'est pas simplement dire le silence, il faut donner à sentir le silence. Et ça, c'est le travail d'écriture qui m'a permis, j'espère, de le faire.
Passagère de nuit, c'est un titre qu'on peut déplier tout au long de la lecture de ce roman. On peut, quand il est question de l'histoire de Florette, on va dire avoir une première acception de l'idée de passagère de nuit, ces femmes, ces enfants, ces hommes, dans les cales horribles, puantes et violentes des bateaux négriers, mais pas seulement. Passagère de nuit, c'est un titre qui va courir jusqu'à la toute fin du roman et qui va presque être discuté. Qu'est-ce que c'est ? Être une passagère de la nuit, et peut-être même qu'est-ce que c'est à un moment donné les générations passant de n'être plus une passagère de la nuit. Est-ce que vous voulez bien éclairer ce titre pour nous, Yannick Lahens ?
Tout à fait. Alors, les passagères de nuit, ce sont les femmes invisibilisées, et pourtant qui sont là, et comme je disais tout à l'heure, qui permettent à l'édifice de tenir. Alors derrière les silences de la grande histoire, on parle très peu de la Nouvelle-Orléans, que ce soit en Haïti ou en France, d'ailleurs c'est l'histoire de France aussi. Il y a ces grands silences de l'histoire. Silence sur l'esclavage. Et puis, il y a les silences sur la place des femmes. Parce que je vais découvrir qu'à la Nouvelle-Orléans, les femmes noire, avait une puissance économique, mais qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Propriétaire d'immeubles, propriétaire d'entreprises, etc. Elles avaient une force énorme. Et qui va contraster justement avec l'Amérique qui va se former après, qui est une Amérique blanche, puritaine, etc. Donc c'est un moment important. Je vais donc découvrir aussi, par la suite, ces mêmes silences, ces passagères de nuit après, c'est que même après l'indépendance, je crois que l'imaginaire colonial continue. Donc, les mêmes femmes qui étaient invisibilisées au moment de l'esclavage, de la colonisation, vont continuer à l'être. Parce que je pense que si la révolution haïtienne est une révolution, enfin, grande révolution des temps modernes, après la révolution américaine, après la révolution française, comme toutes les révolutions, elle est inachevée. Les discriminations continuent. Et quelque part, l'inachèvement de la révolution haïtienne, c'est qu'on a reproduit une forme de colonisation intérieure. Donc elles vont continuer à se battre, ces femmes. Elles continuent à être des femmes discriminées, socialement, économiquement. La couleur de peau, les discriminations de couleur de peau vont continuer. Donc il y a eu des passagères de nuit depuis l'esclavage, mais jusqu'à nos jours, il existe des passagères de nuit.
Mais il y a l'idée du passage et des passagères qui induit un mouvement, donc un mouvement criminel d'exploitation et de tuerie, comme ces bateaux qui arrachent des humains à une terre pour aller les exploiter sur une autre terre. Mais il y a un mouvement très vital dans Passagères de nuit. Je le disais, peut-être que, on va dire, le silence est une des armes. La joie et la lumière est vraiment une des armes de résistance de ces femmes. Mais le fait qu'elles avancent quasiment dès le premier chapitre,
jusqu'en 2025.
Elles passent leur temps à marcher.
Absolument.
À marcher.
Et ce qui est, que j'avais trouvé intéressant, plus je travaillais le texte, c'est qu'on n'est jamais dans une victimisation. Oui, j'ai été victime, mais je dois continuer. Je ne peux pas ne pas avancer. Et je crois que c'est cette force qui, justement, aujourd'hui, malheureusement, qui n'est pas traduite, je peux dire, politiquement, économiquement, parce qu'elles représentent une force économique extraordinaire dans l'économie formelle. Le poids qu'elles ont, par exemple, en ville, ce sont souvent des familles monoparentales. Elles élèvent les enfants, elles les envoient à l'école. Enfin, il y en a qui deviennent des ingénieurs. Ce sont elles aussi qui font la liaison entre la ville et la campagne. Elles ont une force énorme, mais qui n'est pas prise en compte, qui n'est pas comptabilisée, je pourrais dire, dans l'économie formelle, et sur le plan culturel aussi. C'est toute la force qui nous permet de tenir, je le dis, jusqu'en 2025.
Oui.
Donc, pour moi, ce sont les passagères de nuit, parce qu'on a, pas encore écouté leur voix.
Oui, parce
qu'on leur a pas encore donné leur place.
Exactement. Un des mouvements de votre roman, la manière dont elles font passage, c'est aussi ce qu'elles racontent. C'est aussi, donc on disait tout à l'heure, nouer un mouchoir de ciel au-dessous de la tête, mais c'est aussi dire ce que l'on noue autour de la tête de cet enfant, de cet adolescent, c'est tout un ciel, toutes les histoires qui sont racontées entre ces femmes-là, c'est des manières de faire passage.
Absolument, tout à fait, de faire passage d'un savoir et d'un savoir-faire. Et d'ailleurs, à un moment donné, elle était fascinée, elle voulait apprendre à lire. Et alors, elle dit, mais avec toi, Léonard, je vais connaître la vraie connaissance, qui n'est pas le savoir.
On est dans la deuxième partie, c'est Regina qui parle de son amour.
Absolument.
Non, mais allez-y,
je vous en prie. Et là, on se dit, c'est pas un savoir académique, scolaire ou universitaire, c'est le savoir de la vie. Et ça, c'est transmis. Aussi bien par une parente, une arrière-grand-mère analphabète qui ne sait pas lire, mais il y a un savoir qu'elle transmet, et il y a le savoir des livres, c'est autre chose.
Voilà. D'ailleurs, elle transmet l'idée à la toute fin dans un très beau paragraphe que arrivée à l'âge où elle est arrivée, on ne peut pas ne pas avoir perdu et que ça fait aussi partie des choses qu'il faut apprendre. On va écouter la voix de notre auditrice Virginie. Elle vous interroge sur la structure de votre livre.
Bonjour Book Club, bonjour Yannick Lins. J'ai lu avec beaucoup d'émotion votre livre Passagères de nuit. J'ai trouvé une construction différente en deux parties. J'ai trouvé ça très original et je voulais savoir comment vous êtes venu l'idée de tout simplement faire deux parties distinctes en laissant un petit peu le lecteur dans un mystère, surtout au début de la deuxième partie, celle qui correspond à Regina. Merci pour votre réponse.
Merci Virginie pour cette question et pour cette lecture.
Très bonne question, parce que souvent je me dis le lecteur et la lectrice, on dirait qu'elles étaient là pendant que j'écrivais le livre et que je me posais un certain nombre de questions. C'est très très bien. Mais parce que
donc deux parties.
Tout à fait.
Voilà, on a parlé d'Elisabeth qui prend la parole, qui elle-même parle de l'histoire de son aïeul. Et puis, deuxième partie, on est censément un peu ailleurs. C'est Regina qui parle. Il y a une sorte d'adresse à un homme. On y viendra, Léonard. On a l'impression que ce pourrait être deux histoires parallèles, mais
voilà.
À un moment donné, elles se rejoignent.
Très bien. Et parce que dans ma tête, le travail de reconquête de la de la mémoire familiale, c'est fait de cette façon-là. J'ai eu des bribes sur l'existence de cette arrière-grand-mère venue de la Nouvelle-Orléans, d'une tante en Floride. Un jour, elle me dit, tu sais, je l'ai connue, et elle parlait créole avec un accent anglophone. J'ai dit, ah bon ? Je me suis précipitée sur une feuille de papier, j'ai trouvé ça très romanesque, mais je n'en savais pas davantage. Et évidemment, comme on est en Haïti, elle me dit, oui, mais elles étaient deux sœurs, donc Sarah Jane et Elisabeth. Et leur venue, d'arriver dans la ville, et fait entourée de mystères, enfin, comme on est en Haïti, qu'elles n'étaient pas arrivées, qu'elles étaient arrivées de façon mystique, etc. J'ai dit, ah, formidable. Et j'ai mis ça de côté. Et d'un autre, je connaissais mon arrière-grand-mère, je l'ai quand même connue. Mais là encore, sa vie est entourée de mystères. Et à la maison, enfin, j'ai toujours vu l'image d'un monsieur. Alors, mon arrière-grand-mère était très noire de peau, belle femme d'ébène. Et, très presque blanc avec
le monsieur
voilà moustache et puis habit de général parce que au 19e siècle tout le monde veut être général, tout le monde veut être dans l'armée et participer aux insurrections et révoltes, il y en a eu beaucoup au 19e siècle, très imposant. Mais j'apprends par la suite, il y a très peu d'éléments biographiques qui sont racontés dans la famille, mais j'apprends qu'il y a eu entre ces deux personnes une très belle histoire d'amour. Et le lien, c'est que c'est le fils d'Elisabeth. Mais j'ai dû faire moi-même le lien. Et c'est pour ça que j'ai construit les deux parties de manière différente. Et qu'à un moment donné, je vais faire quand même qu'il y ait une rencontre. On ne dira pas comment, mais elles vont se rencontrer.
Mais ça aussi, donc dans un véritable enchâssement, parce qu'à l'intérieur même des parties que vous écrivez, Yannick Lahens, il y a des voix qui racontent leur propre histoire, puis des voix qui racontent l'histoire des aïeuls, puis à un moment donné presque des aïeuls qui peuvent nous parler directement. Oui. Il y a vraiment l'idée d'un enchâssement presque en poupée russe, quoi, et on revient à l'idée de corps multiples, c'est-à-dire qu'on est constitué de corps qui ont des histoires, de paroles qui ont des histoires, de vies qui ont des étages.
Parce que ce sont des cultures où la mort, c'est pas un départ définitif. Les morts sont encore avec nous, les morts peuvent nous parler, les morts, en rêve, les morts peuvent venir et nous donner des conseils. On peut s'adresser à eux dans des moments difficiles, comme on peut s'adresser aux divinités pour leur demander de nous aider dans un moment difficile. Donc, c'est une manière de montrer comment, justement, on parlait de corps, corps réceptacle, corps qui n'est pas seulement lié à ce qu'on voit, au visible, les invisibles, c'est très important, la dimension de l'invisible. Donc, en fait, ça permet aux gens peut-être d'avoir une force que nous, qui ne connaissons que ce petit corps de 1 mètre, je ne sais pas moi, 70, elles sont quand même portées par beaucoup plus que ça.
Oui, alors
d'ailleurs, le corps intérieur, c'est une force, et le fait d'être relié à des ailleurs, ça donne encore davantage de ressources.
Vous dites « elle » au féminin, Yannick Lahens, et à un moment donné, vous écrivez dans votre récit, c'est l'une des femmes qui parle, se rendant compte qu'il y a toujours, pour les hommes, et les hommes, on va dire, qui sont une sorte de force dominante, quel que soit finalement l'endroit où ils se trouvent dans la société, il y a toujours un jupon à retrousser. Dans les pires façons de le faire, il y a quelque chose du corps féminin que vous travaillez dans Passagère de nuit. On a essayé tout à l'heure d'entendre les différents échos que pouvait avoir ce titre-là, mais Passagère de nuit, c'est aussi des femmes qui habitent leur corps, et ce corps, il est en permanence soumis à l'assaillant, quoi, d'une certaine manière. Et on a l'impression que c'est une permanence dans ce que vous écrivez. C'est-à-dire que le temps... Alors, on va parler ensuite de la place du désir et du plaisir, mais... Il y a une permanence du corps féminin attaqué.
Ben oui, c'est... je dois dire que c'est une réalité. Bon, quel que soit le siècle, quel que soit l'endroit, quand même, le patriarcat autorise un certain nombre de comportements. Et ces femmes, c'est une manière aussi d'affirmer leur féminisme. Il y a différentes manières de décliner le féminisme. Et là, il faut le voir. C'est pas le féminisme à la Simone de Beauvoir, mais c'est autre chose. C'est une manière d'affirmer son indépendance. Elles sont financièrement indépendantes. Une manière d'assumer leur liberté. Une manière d'assumer leur joie aussi. Et une manière d'assumer leur inscription dans la vie quotidienne. Et dans, je pourrais dire, la structuration, une manière de nourrir cette vie dont elles sont porteuses et qu'elles accompagnent, et les enfants, enfin les gens autour d'elles. Et ça, c'est une forme aussi d'affirmation. Maintenant, oui, le corps, c'est bien pour ça que je ne voulais pas montrer que le corps souffrant et que la deuxième partie...
Est un corps amoureux.
Parce que j'ai appris qu'il y avait une très grande histoire d'amour et je me suis dit, il faut que dès le départ, on ait ce refrain de ce grand amour qu'a été celui de Léonard et Regina.
C'est une histoire d'amour qui est au cœur de cette deuxième partie, Passagère de nuit. Et d'ailleurs, on peut donner une autre façon de faire chatoyer ce titre. La nuit, c'est la nuit des amants, c'est la nuit du désir. Mais ce qui est intéressant dans cette deuxième partie, Yannick Léon, c'est que vous faites coïncider l'énergie du désir sexuel entre deux corps et l'énergie du soulèvement politique et la manière dont ça se fond. Nuit de révolte et nuit d'amour sont assez liées dans cette deuxième partie. On va écouter un nouvel extrait de votre texte.
Tu m'as demandé mon prénom et je t'ai demandé le tien que je connaissais déjà. Mais pour te taquiner, je t'ai toujours appelé mon général et tu avais décidé que le surnom Reine, plus doux que le prénom Regina, me conviendrait tout à fait. Tu m'as tenu par le bras pour que je reste encore un peu. J'ai levé l'index et t'ai répondu sans broncher que je partais. Non, je m'en vais. Toi, habitué à donner des ordres, tu fus surpris. Je n'étais ni un soldat de ta garnison, ni une domestique. Pas encore ta maîtresse. Encore moins ta femme placée. J'étais femme, jeune et libre. Je crois avoir aperçu Gran Semise debout aux portes de mon ciel, qui me fixait avec attention, sa pipe entre les lèvres, et ma mère médusée, assise sur un nuage à son côté, les plis de sa robe entre les jambes. Je leur souris, les yeux perdus au loin. Quand tu me demandas à quoi je pensais, je t'ai répondu « Je ne pense pas, je souris ». Ton désir était plus qu'une fin. À chaque rencontre, tu m'as accablé de douceur. Je chutais dans le puits lumineux du plaisir. Il m'est arrivé les premiers jours de m'endormir là contre toi, la tête posée sur ton torse, et ne rien voir au-delà de tes cheveux. Et faire taire toutes mes colères, toutes mes douleurs, mon ventre contre le tien. Mais je gardais mes rêves par-devers moi. Comment aurais-je pu résister à tant de force ?
On est dans la seconde partie de votre livre Passagère de nuit, Yannick Léonce, et on entend celle qui se définit elle-même alors qu'elle a refusé aux autres la possibilité de la figer dans les mots. Elle dit « Je suis une ogre silencieuse de la vie » et on entend dans cet extrait-là où elle parle de l'abandon total ou quasi total de son corps au plaisir avec cet homme dans leur histoire d'amour, qu'elle garde ses rêves par-devers soi. C'est-à-dire que y compris dans l'amour et dans le lâcher-prise le plus grand, il y a un département de liberté chez cette femme.
Oui, parce qu'à un moment, elle dit « si je te l'avais dit, j'aurais été deux fois soumise.
Ouais. »
Deux fois.
C'est un tout petit peu socialement, plus loin, par exemple.
Ouais. Socialement et amoureusement. Il faut que je garde une souveraineté quelque part.
Il y a vraiment l'idée d'une liberté farouche,
jusqu'au bout. Alors parlons un peu de cette histoire d'amour que vous racontez, mais inventée. Yannick Clarence, on sent bien que vous faites œuvre littéraire à partir de cette histoire d'amour. Qu'est-ce qui vous intéresse? Rappelez-nous à quelle époque on est et qui sont ces deux personnages-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter?
Voilà. Alors j'ai décalé un peu dans le temps parce que c'était pas, si j'ai connu mon arrière-grand-mère, ça se passait pas au 19e siècle. Mais il fallait que, pour les besoins de l'œuvre d'imagination, que je place ça au 19e siècle. Ça a été une grande histoire d'amour, d'après ce que j'ai appris. Et qui avait défié enfin un peu la société de l'époque. Et alors, je reprenais la force de cette arrière-grand-mère, en même temps cet amour qui défiait un peu et qui allait à l'encontre de l'imaginaire colonial, qui sévit encore en Haïti aujourd'hui, et qui faisait qu'il y avait entre une personne très noire de peau et presque un blanc, une histoire d'amour. C'est pas dans les codes. Donc c'est une manière de défier les codes. Donc elle sait qu'elle défie les codes aussi. Elle veut garder cette liberté parce qu'elle ne voudrait pas que lui pense la soumettre complètement. Donc elle veut garder sa liberté et sa force. Et quelque part, en lui présentant ce masque de silence souvent, elle ne dit pas...
Je ne pense pas, je souris.
Je ne pense pas, je souris. C'est une manière de se l'attacher aussi, de lui faire comprendre qu'il n'est pas le maître, qu'elle n'a pas de maître, voilà. Et c'est toute une stratégie. Alors, en écrivant ce livre, une amie qui fait des études sur le féminisme noir américain, elle m'a conseillé un texte qui s'appelle « The Sovereignty of Quiet ». Alors, je l'ai lu, j'étais un peu déçue, enfin, et je me suis dit, il aurait mieux valu parler de la souveraineté du silence.
Et non pas du calme.
Oui, parce que c'est le silence qui a tout ce pouvoir. On s'imagine que ce sont seulement les confrontations violentes qui nous amènent à la victoire, pas du tout. Là, je me dis, quand je regarde les femmes, elles tiennent, mais c'est une victoire à bas bruit tous les jours.
Et en même temps, vous placez ça dans un moment où Haïti est agité de révolte, où il y a du bruit, il y a l'inverse du silence, il y a du feu, il y a du bruit, il y a des combats, il y a un appétit révolutionnaire. Et ça aussi, c'est la nuit de votre roman, c'est aussi la nuit d'une recherche d'émancipation permanente sur tous les plans.
Tout à fait. Et quand tout à l'heure j'ai parlé de révolution inachevée, toutes les révolutions sont imparfaites. Haïti fait aller plus loin et la révolution américaine et la révolution française en proclamant vraiment la liberté et montre aussi à la fois les contradictions et les limites du projet de la modernité avec cette révolution, mais sur le plan interne, elle n'a pas su créer un commun. Et nous sommes en train de payer ce déficit jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en soubassement de toutes les crises que nous avons connues depuis notre naissance, c'est le fait qu'on n'a pas su intégrer cette majorité faite de 75% de ceux qui étaient là au moment de la constitution de l'armée indigène étaient des hommes et des femmes fraîchement arrivés d'ethnies différentes africaines. Et quand les élites qui ont pris le pouvoir ont voulu faire un modèle occidental, c'est presque une colonisation intérieure. C'était le seul modèle aussi qui s'offrait à eux, bon, disons. Alors que la grande majorité était contre le système de la plantation. Et on créait une culture qui est basée sur une manière d'occuper l'espace, la famille communautaire, contre la monoculture. C'est la petite propriété avec l'agriculture diversifiée, d'ailleurs qui est plus écologique d'ailleurs. Et donc, d'un autre côté, une constitution qui parle de famille à l'européenne, qui dit que la religion catholique est la religion officielle, que le français est la langue officielle, alors que 80% des gens étaient complètement dans une autre dynamique.
Et cette non-prise en compte d'une très grande partie de ce qu'on pourrait appeler alors la culture populaire haïtienne, vous y répondez d'un point de vue littéraire, Yannick Lahens, au contraire, en y tendant l'oreille, en l'écrivant, en regardant les gestes, en regardant les organisations d'espoir, d'espace, de travail, de parole. On va écouter la voix de Lionel Trouot. Il est au micro de la radio en 2023, au moment de la parution de son livre « La veilleuse du calvaire ».
C'est aussi un hommage à la culture populaire qui s'est construite, qui s'est développée, alors qu'elle subissait le mépris total, qu'elle subit encore le mépris total de ces oligarchies qui vivent dans le mimétisme, qui essaie de reproduire les mœurs, les pratiques de ceux qu'il croit être les mœurs et les pratiques de l'Occident, de la France. Vous savez, il y a une bourgeoise haïtienne, j'en ai quelques-unes quand même comme lectrice, qui m'a dit, mais pourquoi tu vas parler de ces choses-là? Parce que ces choses-là, pour elle, c'est pas... Et quand elle dit ces choses-là, ça peut être la boue, la pauvreté, la crasse dans laquelle les gens des milieux populaires sont obligés de vivre, ça peut être aussi leur chanson, leur tradition. Donc, y a une haine, un mépris du populaire dans le comportement, dans l'attitude des oligarchies haïtiennes qui perdurent.
J'ai deux, trois bourgeoises haïtiennes dans mes lectrices, dit Lionel Trouillot en 2023 au micro de Culture Monde. Pourquoi allez-vous parler de la boue? Il y a quelque chose dans votre littérature, mais pas que dans ce livre-là, Yannick Lahens, qui veut parler de la boue, qui veut parler de la terre dans les cours, qui veut parler de certains jupons, qui veut parler de certaines odeurs. Au contraire, vous en faites des endroits d'une forme de noblesse.
Tout à fait. Et en écoutant Lionel, j'ai souri parce que je ne cesse de répéter à mon éditrice et à quelques libraires. J'ai hâte de savoir comment les gens vont réagir, les lecteurs et lectrices lettrés en Haïti.
En Haïti.
J'ai hâte de voir. Parce que beaucoup de gens sont dans le déni. Beaucoup de ceux qui ont accès aux livres sont dans le déni. Je ne parle pas des jeunes... poètes, écrivains, enfin des jeunes...
Qui sont dans un autre dynamisme,
absolument,
au contraire, et que ça intéresse.
Et qui, on peut dire quand même qu'il y a l'arrivée de couches populaires dans les écoles, etc. Mais je parle des lecteurs, de ceux qui vont acheter dans les deux librairies de Port-au-Prince. J'ai hâte de voir quelles seront leurs réactions. Parce que là, en fait, c'est le portrait de femmes qui vont aller chercher leurs propres contradictions, qui vont aller pointer du doigt leurs propres préjugés.
Vous dites ça en souriant.
Oui, parce que
ça vous
j'anticipe le
ça
plaisir.
Vous intéresse.
Oui, oui, mais je voudrais voir vraiment. Et je crois que c'est là où on n'a pas su créer cette passerelle entre les gens.
Et la littérature, c'est une possibilité de le faire. Vous parlez de passerelle et vous écrivez un livre qui s'appelle Passagère de nuit, mais il y a une idée de contrebande aussi, c'est-à-dire que les livres, c'est aussi la possibilité de les faire parler.
Oui. Mais ça ne suffit pas. Mm-hmm. Je dis toujours que, même après le tremblement de terre, je me souviens la manière dont très vite, avant même qu'on reconstruise les murs, les jeunes poètes, les jeunes musiciens, les jeunes peintres ont fait revivre la vie culturelle et artistique. C'était formidable. C'est comme l'oxygène qui permet au cœur de continuer à battre. Mais il faut plus qu'un cœur qui continue à battre. Et il faut qu'on finisse par dire un jour « construisons du commun ». Mais je pense que dans toutes les sociétés, il arrive un moment où le commun se défait et qu'il faut le reconstruire, même en France.
Le Book Club continue. Avec le moment agenda de ce Book Club, on se propose tous les jours ou presque de relayer des événements, des festivals en lien avec la lecture et le livre. Plusieurs choses aujourd'hui. Le Festival international de géographie qui se tient du 3 au 5 octobre. C'est à Saint-Dié-des-Vosges et France Culture est partenaire autour d'un fil rouge cette année, le pouvoir. De très nombreuses rencontres avec des auteurs et des autrices, notamment au cours de ces trois jours, un prix de la BD, un prix jeunesse. C'est vraiment un lieu des échanges entre géographes, chercheurs, universitaires, enseignants, élèves, écrivain, illustrateur et le grand public. Donc voilà, ça c'est à Saint-Dié-des-Vosges. Et puis, on voulait aussi évoquer la deuxième édition d'une opération qui s'appelle Bibli en folie, sur les mêmes dates. Journée nationale dédiée aux bibliothèques et aux médiathèques. C'est une opération du ministère de la Culture qui vise à célébrer ces établissements dont on parle souvent ici au Book Club. Des établissements de premier plan avec des programmations et des services et leur présence sur le territoire. On rappelle qu'il y a quelques 15 500 bibliothèques en France, des médiathèques et des lieux de lecture répartis sur l'ensemble du territoire et qu'il y a 97% de la population qui vit à moins de 10 minutes d'une bibliothèque en France. Voilà, c'est vraiment l'occasion de continuer de les célébrer.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On a parlé de la joie, de la lumière et du jeu aussi de ces femmes qui est une force qu'elles gardent dans votre roman Passagère de nuit par devers elles et en elles. Et nous aussi, on joue dans le Book Club à chercher de la musique dans les textes. Il y en a toujours de la musique dans vos textes, Yannick Lahens. On se quitte donc avec un dernier extrait de Passagère de nuit.
Et c'est l'idée d'un prêté pour l'être pour nous là, m'a fait magie à marcher. Et c'est l'idée d'un prêté pour l'être pour nous là, m'a fait magie à marcher. C'est où que marcher, c'est où qui ouais. C'est où que marcher, c'est où qui ouais, attends. Oh, et c'est l'idée d'un prêté pour l'être pour nous là, m'a fait magie à marcher.
Il y a tant de portes dans le monde qui donnent sur un autre monde. Grand-mère, mère et moi, nous nous frayons ce dimanche après-midi un passage dans la foule dansante de Congo Square. C'était une des promenades préférées de grand-mère. La gaieté y était contagieuse. La houle de nos hanches, la joie tournant dans nos bras. Nous avons esquissé quelques pas de Kalinda, de Djouba, de Krabéen, comme pour renouer un pacte avec la vie. Nous avons poursuivi notre chemin cet après-midi-là. Et me tenant par la main, grand-mère s'est arrêtée de marcher. Et prenant appui sur sa canne, elle s'est penchée vers moi et m'avait simplement dit « À l'instant même de ta naissance, la mort est déjà là. Tu dois aller au-devant de la vie tant que tu peux. Traverse des portails, franchis des limites, perce des murs, ne disparais pas de ton vivant. » La mort est là pour s'en charger. Promets-le-moi. Et elle m'embrassa sur le front. À la fin de votre roman Passagère de nuit, Yannick Lahens, on est très proche de votre personnage. Elle est à la veille de la mort, elle est toute proche de la mort, et donc elle peut regarder la vie. Et elle se souvient au moment, elle se souvient du désir, de la joie, de la lumière. Et s'il y a plusieurs naissances pour toutes ces femmes que vous évoquez dans Passagère de nuit, il n'y a vraiment qu'une seule vie. Et il faut la vivre. Il faut vraiment la vivre. Et ça pourrait être comme ça, ça pourrait paraître naïf de dire ça au regard de tout ce qu'on a évoqué, de l'histoire, de l'esclavage, etc. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose que je garde de cette lecture. Voilà, je voulais juste le dire.
Merci.
Il y a plusieurs naissances, mais il n'y a qu'une seule vie. Et je trouve qu'elle nous oblige, quoi, cette lecture, en tout cas, de ce côté-là, du côté vivant.
C'est déjà gagné, ça.
Ouais, c'est déjà gagné, exactement. Passagère de nuit, c'est le titre de votre livre, Yannick Lahens, et il a paru aux éditions Sabine Vespizer, éditeur. Merci beaucoup d'avoir été
avec nous. Merci de l'invitation.
Au son, c'était Tard Bouclifa aujourd'hui à la réalisation Vivien de Meyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser, préparer, programmer ces émissions, et particulièrement aujourd'hui à Mathilde Wagman. Vous pouvez continuer la conversation sur le compte Instagram du Book Club animé par Alexandra Lajbegovic.